إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mois béni pour nous arrêter sur les paroles du très noble messager et les méditer. S'arrêter sur des paroles du professeur Salem, des récits prophétiques pour les méditer. Et c'est ce qui a motivé l'imam Nawawi rahimahullah, ce très grand savant du 7e siècle de l'islam. Il dit « Ce qui m'a poussé à écrire ce recueil de 40 hadiths, c'est la parole du prophète dans laquelle il dit que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. » Et également une autre prophète, une autre parole du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Qu'Allah remplisse de joie un homme qui a entendu ma parole et l'a retenue, puis l'a transmise comme il l'a entendue. » Puis l'imam Nawawi rahimahullah d'ajouter à propos de ce recueil de 40 hadiths que toute personne qui recherche l'au-delà connaisse ces hadiths. Toute personne qui recherche l'au-delà doit connaître ces hadiths car ils rassemblent les fondements et porte l'attention sur l'ensemble des actes d'obéissance pour celui qui prend la peine de les méditer. Alors sans plus attendre, arrêtons-nous sur ce hadith numéro 13 qui nous concerne. An Abi Hamzata Anas ibn Malik radiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. D'après le compagnon Abu Hamza, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « N'est pas croyant celui d'entre vous qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. » Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors pour commencer, on va peut-être dire quelques mots sur ce compagnon Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, c'est un compagnon médinois, et plus particulièrement du clan Khazraj, puisque vous savez qu'à Médine, il y avait deux grands clans à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Al-Aws ou Al-Khazraj. Donc Anas ibn Malik fait partie de Al-Khazraj. Et sa mère l'a mis au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète est arrivé à Médine. Sa mère l'a amené auprès du prophète, l'a amené Anas, qui était alors âgé de 10 ans, et elle lui dit « Ya Rasulallah, je le mets à ton service. » Et donc il a passé toutes ces années, depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, jusqu'à sa mort pendant 10 ans, au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il a pu profiter de la compagnie du prophète, car il vivait dans son giron, dans sa proximité, comme personne d'autre. Mais également ce qu'on peut dire à propos de Anas ibn Malik, c'est qu'il y a un lien de parenté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Anas ibn Malik est issu de la tribu des Banu Najjar. Et les Banu Najjar, ce sont les oncles maternels de Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a un lien de parenté entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Anas ibn Malik, puisque la tribu de Banu Najjar sont les oncles maternels d'Abdul Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un fait marquant à propos de Anas ibn Malik, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour lui. Il a invoqué pour qu'il ait beaucoup de biens, et qu'il ait beaucoup d'enfants, et qu'il ait également de la baraka, de la bénédiction. Et son invocation, bien sûr, a été exaucée, puisqu'Anas ibn Malik a pu profiter des largesses d'ici-bas, et il a eu beaucoup d'enfants, et beaucoup de petits-enfants, si bien qu'on les comptait, lorsqu'on dénombrait ses enfants et ses petits-enfants, on arrivait à un nombre supérieur à 100. Et Allah SWT a mis de la baraka dans sa vie, puisque Anas ibn Malik a vécu plus de 100 ans. Il est rapporté qu'il est décédé en l'année 93 de l'Hégire, alors que lorsque le prophète sallam émigre, le calendrier musulman débute à ce moment-là, il était âgé de 10 ans, donc il a dépassé 100 ans, Anas ibn Malik. Et c'est également un compagnon, le compagnon médinois, qui a rapporté le plus de hadiths. Parmi les compagnons médinois, c'est celui qui a rapporté le plus de hadiths, qui sont au nombre de 2286. Anas ibn Malik, pendant le califat de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, va s'installer à Bassora, en Irak. Et c'est là qu'il décédera. Voilà cette petite présentation de ce compagnon Anas ibn Malik, parce que c'est toujours important de savoir un petit peu, de resituer, et d'avoir des connaissances sur ces nobles compagnons, les premières générations, qui nous ont transmis tout ce savoir, justement. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est constituée de peu de mots en réalité. Mais elle est très lourde de sens. Cette parole est très courte. « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Pas un vrai croyant, celui d'entre vous, qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc en très peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne énormément d'enseignements. Et ça, c'est une des caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il dit, dans un hadith qui est rapporté par Muslim, il dit « Fuddiltu ala al-anbiya bisit, wa dhakara minha u'titu jawami al-kalim » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans ce hadith rapporté par Muslim, « Il m'a été accordé six choses qui n'ont pas été accordées aux autres prophètes. » Et parmi les choses qu'il cite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par Muslim, il dit « U'titu jawami al-kalim » Le fait de dire en peu de mots des paroles riches de sens. Donc en très peu de mots, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette capacité en très peu de mots de dire des paroles qui sont très lourdes de sens, très riches en signification. Et donc ce hadith en fait partie. Ce hadith fait partie de ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont très lourdes d'enseignement. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliciter. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yu'minu ahadukum » La yu'minu ahadukum, n'est pas croyant, celui d'entre vous. La yu'minu ahadukum. On a beaucoup de récits prophétiques qui commencent par cette expression déjà, la yu'minu ahadukum. Mais on trouve également des récits prophétiques qui ont la même tournure. Par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab » Pas de prière pour celui qui ne récite pas la surah Al-Fatiha. Vous voyez ?« La salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab » Il dit également « La imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahda lah » Pas de foi pour celui qui ne respecte pas le dépôt, l'amana. Pas de religion pour celui qui ne respecte pas l'ahd, l'engagement. Donc on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ces expressions-là. Et ce qui est important ici, c'est de savoir quelle est la signification qu'il faut porter à cette expression. La yu'minu ahadukum. N'est pas croyant. Est-ce que, ici, cela signifie qu'il y a une absence totale de foi ? Alors les savants ont distingué plusieurs niveaux pour l'absence de foi. Ils disent, ils parlent, ils distinguent en trois niveaux que nous allons expliciter. Premier niveau, nafyun li asli l'iman. Un nafy li asli l'iman. Le premier niveau, c'est une absence totale de foi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de foi du tout, du tout, du tout. Et là, on peut donner un exemple à travers le verset qui se trouve dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله سبحانه وتعالى dit par ton Seigneur ils ne seront pas de vrais croyants لا يؤمنون ils ne seront pas de vrais croyants tant qu'ils ne soumettront pas leurs différends à ton arbitrage et accepteront sans rancœur ton verdict avec une adhésion totale. Donc ici, il s'agit bien de ce premier niveau, c'est-à-dire que s'ils ne se soumettent pas aux décisions du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont un différend, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam tranche dans une des questions qui les divise, et s'ils n'acceptent pas la décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils n'ont pas la foi. Parce que ça, c'est un des piliers de la religion. Donc ici, en réalité, ce premier niveau, l'absence totale de foi, il est lié au fait qu'on remet en cause un principe, qu'on remet en cause un fondement de la religion. Donc si ce pilier ou si ce fondement est remis en cause, alors ça remet en cause la foi. Donc nafyun li asli l'iman. Donc ici c'est le fait que on remette en cause un fondement, un principe de la religion, ça implique qu'on perd la foi. Donc c'est quelque chose de très grave, et ici c'est explicité clairement dans ce hadith, le fait par exemple de rejeter le professeur sallam ou les décisions du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un des piliers de l'islam, et personne ne le remet en cause. Pareil pour, par exemple, la lecture de l'Fatiha pour la prière. Dire que la majorité des savants considèrent que celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, la prière n'est pas valable. Hein, la prière n'est pas valable en s'appuyant sur le hadith qu'on a cité juste avant. La salat al-imam lam yaqra bi fatihati al-kitab. Alors le deuxième niveau d'absence de foi, c'est ce que les savants ont qualifié de nafyun li kamal al-iman al-wajib l'intiqa'i ba'di wajibati. C'est en fait une absence d'une foi complète. Il ne s'agit pas d'une absence totale ici, comme le premier niveau. C'est une absence d'une foi qui serait complète. Il y a une absence, il y a quand même la foi, mais c'est une absence, c'est une foi qui n'est pas complète. Absence d'une foi complète. Et souvent, cela est dû à un manque, par exemple, pour un acte obligatoire. Par exemple, dans la prière, il manque un acte obligatoire. Donc là, on ne va pas dire que la personne n'a pas la foi. Si volontairement, par exemple, elle omet un acte qui est obligatoire, alors elle continue d'avoir une foi, et cette foi est diminuée et n'est pas complète. Cette foi n'est pas complète. Ou alors parce qu'on a commis un grave péché. Alors on a commis un grave péché, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qu'on entend assez régulièrement, qui est tout à fait authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est rapporté par un muslim, il nous dit « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu l'khamr hina yashrabu l'khamr wa huwa mu'min. » Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui commet l'adultère n'est pas croyant au moment de commettre l'adultère. Celui qui vole n'est pas croyant au moment où il commet le vol. Celui qui consomme de l'alcool n'est pas croyant au moment où il consomme de l'alcool. » Donc ici, les savants ont beaucoup écrit hein, sur cette question. Est-ce que ça veut dire qu'il perd totalement la foi? Non, la majorité des savants nous disent que non. Et ceux, les savants de Al-Sunna wal-Jama'a nous disent qu'il ne perd pas la foi. Par contre, sa foi est grandement diminuée par ses actes de désobéissance. Le fait qu'il désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala, cela induit que sa foi n'est plus complète, elle est diminuée. Et ces interdits qu'il a enfreints entachent sa foi. Ces désobéissances qu'il commet entachent sa foi. Et sa foi est lourdement diminuée. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ce que les savants ont appelé « Nafyun li kamal il-iman il-mustahab »« L'intiqa'i ba'du mustahabbati » Donc le troisième niveau, c'est une absence d'une foi complète parce qu'on n'a pas respecté certains actes recommandés. Le mustahab, certains actes qui sont recommandés, qui est bien de faire et qu'on n'a pas accompli. Et bien ça induit une diminution de la foi. Ce n'est pas une disparition totale de la foi comme au premier niveau. Alors voilà ces trois niveaux de diminution de la foi jusqu'à la disparition de la foi. Hein, ces trois niveaux. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce texte, la yu'minu, sur cette expression la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum. La yu'minu ahadukum, les savants placent ce hadith sur le deuxième niveau, c'est-à-dire que, bien entendu, celui qui ne respecte pas ce qui vient après dans cette expression, ne perd pas totalement la foi, mais sa foi est diminuée. Parce qu'en réalité, il a délaissé quelque chose qui est obligatoire. Et ce qui est obligatoire, c'est le fait d'aimer pour son prochain ce qu'on aime pour soi-même, et on y reviendra. Donc ici, les savants nous disent que, ici, ce hadith, la yu'minu ahadukum, cette personne-là, sa foi est grandement diminuée parce qu'il n'a pas respecté cette obligation, l'obligation d'être bon envers son prochain, et d'avoir des bons sentiments à son égard, et de vouloir du bien pour son prochain. Et d'ailleurs, cette interprétation-là, la yu'minu ahadukum, elle est corroborée par une version authentique du hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yablughu abdun haqiqat al-iman » حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان. L'homme n'atteint pas la vraie foi, حقيقة الإيمان. Donc ça veut dire qu'il n'a pas une foi qui est complète, qui est totale. Vous voyez, donc ici, le fait de ne pas respecter cette obligation, la foi est diminuée. La foi est diminuée du fait de ne pas avoir respecté cette obligation d'être bienveillant à l'égard de son frère musulman. Donc on fait bien partie ici de la deuxième catégorie qui a été évoquée en termes d'absence de foi ou diminution de foi. Et on en déduit également de ces textes que la foi peut fluctuer, elle peut baisser ou augmenter. Et justement, qu'est-ce qui fait que la foi augmente ? C'est les actes de bonté, les actes de foi, les actes de bienveillance. Ces actes-là font que ta foi, elle augmente. Et à l'opposé, qu'est-ce qui fait que la foi elle diminue ? Ce sont les actes de désobéissance et les péchés qui font que ta foi elle diminue. Et c'est ce qui est exprimé dans le hadith, hein, lorsqu'on a cité « La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min al-hadith » le hadith qu'on a cité à propos de celui qui commet l'adultère, qui vole ou qui consomme de l'alcool. Hein, c'est le fait de commettre des désobéissances, des péchés, cela a un impact sur la foi. Donc on pourrait traduire ce hadith, « La yu'minu ahadukum » n'a pas une foi complète. Celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et donc en tout état de cause, ici on ne peut pas qualifier celui qui ne respecte pas cela de mécréant, bien entendu. De quelqu'un qui a disparition totale de la foi, non du tout. Ici, la personne elle reste croyante, mais à divers degrés, à différents degrés. Alors, revenons sur ce hadith. « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih »« Hatta yuhibba li akhih »« Hatta yuhibba li akhih » Il faut éprouver de l'amour. « Yuhibba li akhih » Ici, Allah SWT, le prophète sallam plutôt, a utilisé le terme « l'hub »« Yuhibba li akhih » Ici, on ne peut pas avoir une foi complète si on n'éprouve pas de l'amour pour son frère. Yuhibba li akhi. Ici, le sentiment d'amour, en réalité, est un élément central de la foi. Il est intimement lié à la foi. Ce doit être un sentiment qui domine chez le croyant. Nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, non pas par contrainte, mais parce que nous l'aimons. Et donc, le sentiment premier qui doit jaillir du cœur du musulman, du croyant, c'est le hub, le fait d'aimer. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala dans une relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, une relation verticale vers le ciel, qui est dominée par cet amour, mais également une relation vis-à-vis des créatures, dans une relation horizontale vers les autres, en particulier les hommes et plus particulièrement les croyants, une relation d'amour. Et malheureusement aujourd'hui nous éloignons de cette notion-là. Il faudrait réhabiliter ce sentiment d'amour, cette notion-là d'amour, qui est centrale dans la vie du musulman. Que ce soit vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre Seigneur, mais également à l'égard de nos frères. Ce qui doit diriger nos relations avec nos frères, c'est l'amour. C'est de vouloir toujours le bien. Et donc il faudrait réhabiliter ça. Réhabiliter cette notion-là d'amour qui est essentielle, et ici le prophète sallam l'utilise. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Voilà sur l'hub. Maintenant, il utilise le terme yuhibbu li akhihi. Il aime pour son frère. Yuhibbu li akhihi, beaucoup de versions, enfin certaines versions, signalent, précisent li akhihi il muslim. Yuhibba. Donc ce qui est consacré ici, c'est la fraternité. La fraternité qui est également un pilier, un fondement de notre religion. Il faut considérer son prochain comme son propre frère. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Ali Imran, il nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an » فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. Il dit, subhanahu wa ta'ala, attachez-vous fermement Ahablullah, le pacte d'Allah. Wa la tafarraqu, et ne vous divisez pas. Wa dhkuru ni'matallahi 'alaykum, et rappelez-vous, souvenez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Id kuntum a'da'an, car vous étiez des ennemis. Fa alafa bayna qulubikum, il a réconcilié vos cœurs avec l'affection. Alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, de sorte que par sa grâce vous êtes devenus des frères. Vous êtes devenus des frères. Donc cette notion-là de fraternité est très très importante. Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il accomplit, la première action qu'il mène lorsqu'il arrive à Médine, après l'émigration, la première chose qu'il fait, c'est de fraterniser entre les Mécois et les Médinois, pour que cette fraternité prenne corps. Donner un sens à cette fraternité, parce qu'il ne s'agit pas de dire oui, les musulmans sont frères, et puis derrière, chacun vit sa vie dans son coin. Ça n'est pas ça, le sens de cette fraternité. La fraternité, c'est vraiment de la concrétiser dans la vie de tous les jours, de penser aux autres, de se soucier des autres, d'aller vers les autres, d'aimer son prochain, et de partager, d'aider, de fournir tous les efforts possibles, imaginables, pour aider son prochain. Et d'ailleurs, également le prophète sallam, dans une parole prophétique, consacre cette fraternité et donne une très très belle image. Dans le hadith rapporté par Muslim, il nous dit « مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدْ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى. Il dit l'exemple des croyants en ce qui concerne leur clémence, tarahumihim, leur clémence, leur miséricorde les uns envers les autres. Wa ta'atufihim, leur entraide les uns envers les autres. Wa tarahumihim, tawaddihim, ta'atufihim, wa tarahumihim. Tawaddihim, wa tarahum, wa ta'atuf. Donc cet amour, cette miséricorde et ces liens qui les lient les uns aux autres, cet amour qui les lie, cette affection qui les lie les uns aux autres, cette miséricorde, cette clémence qui les lie les uns aux autres, le prophète nous dit que cet exemple-là des croyants est semblable à un corps, le corps d'un individu. Lorsqu'un membre se plaint, lorsque une partie du corps est touchée par une maladie, par un mal quel qu'il soit, tout le corps est concerné. Si bien que tout le corps reste éveillé, on a du mal à dormir. Pourquoi ? Parce qu'on est pris de douleur pour ce membre, alors que c'est une partie du corps qui est touchée, mais tout le corps est solidaire, tout le corps reste éveillé et ressent de la fièvre, et est saisi par la fièvre, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de cette fraternité entre nous. Nous ne pouvons pas réussir, si ce n'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais également à travers cette union. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'aide, son secours, à partir du moment où on se soutient mutuellement et qu'on est unis. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans la situation que nous vivons, en particulier pendant le mois de Ramadan, puisque c'est un mois du partage, c'est un mois où les liens doivent être très forts, les gens doivent se rendre visite. Alors c'est vrai que nous sommes dans une situation particulière aujourd'hui, que vous connaissez tous, avec ce confinement, et ça doit nous interpeller. Comment faire vivre cette fraternité? Comment faire vivre cette solidarité, ce soutien mutuel, cet amour? Comment le concrétiser? Même si je suis isolé chez moi, comment je peux mener des actions? Et il est possible, et vous avez beaucoup de moyens de concrétiser cette fraternité. Alhamdulillah, beaucoup d'entre vous s'investissent dans ce sens-là, et c'est une bonne chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » L'amour de notre propre personne. « Yuhibbu li nafsi »« Ma yuhibbu li nafsi » L'amour de notre propre personne. C'est quelque chose qui est inné. Chacun d'entre nous aime bien avoir des bonnes choses, se faire plaisir. Voyez ?« Ma yuhibbu li nafsi » Donc ça, c'est quelque chose qui est naturel, qu'on retrouve chez chacun d'entre nous. Allah subhanahu wa ta'ala a placé cette fitra en chacun d'entre nous. On aime avoir du confort, on aime avoir se faire plaisir pour certaines choses, etc., dans le manger, dans le boire, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre de cette parole, حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ, c'est qu'il faut casser ce sentiment d'individualisme qui pourrait prendre le pouvoir sur le cœur. Cet égocentrisme, le fait de ne penser qu'à soi et de délaisser les autres. Il faut casser cet individualisme, cet égocentrisme pour arriver à aller vers les autres, à aimer pour eux ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et donc se soucier des autres. Et même aller au-delà, un degré encore au-delà, supérieur, c'est le fait de les préférer à soi-même. Et on parle alors d'altruisme. Tu te sacrifies pour autrui. Le fait de se soucier d'autrui et le fait de peut-être te priver toi pour donner aux autres, comme l'ont fait les compagnons. On a parlé tout à l'heure de fraternité entre les Mécois et les Médinois. Allah SWT nous dit dans Surat al-Hashr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ, ça c'est la troisième catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les compagnons médinois qui ont sacrifié et qui ont combattu ce sentiment d'individualisme et d'égocentrisme. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, il nous dit à propos des Médinois. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, ils aiment ceux qui ont émigré vers eux. Voyez ce sentiment d'amour chez les Médinois. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, c'est-à-dire qu'ils se sacrifient même s'ils ont un besoin. Par exemple, ils ont besoin de cette nourriture-là et ils préfèrent la donner à leurs frères Mécois. Donc voyez comment cet amour d'autrui, elle se concrétise à travers les compagnons, à travers les comportements et la façon d'agir des compagnons. Et c'est pour ça qu'ils ont atteint ces hauts degrés. Pourquoi est-ce que les compagnons ont été préférés et ils ont ce haut degré? C'est parce qu'ils ont fait ces sacrifices, ils ont fait ce qu'Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ont demandé. Et même s'ils avaient un besoin particulier, ils avaient parfois de la nourriture qui était limitée, etc. Et bien ils se souciaient de leurs frères, mais quoi, de savoir est-ce qu'ils avaient quelque chose à manger, ils préféraient leur donner, et quitte eux à se priver. Voilà où Kanabihim Khasasa. Et même s'ils avaient un besoin, même s'ils avaient un besoin de cette chose-là, ils préféraient Yu'thiruna ala anfusihim. Voilà où Kanabihim Khasasa, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Voyez cet amour, comment il est concrétisé dans le comportement des compagnons. On a cette parole également de Fudayl ibn Iyad rahimahullah, qui dit à Sufyan ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna rahimahumullah, il dit: in kunta turidu an yakuna an-nas kulluhum mithlak fama addayta lillah an-nasiha. Il dit: si tu souhaites que les gens soient tous égaux à toi, qu'ils soient tes égaux, alors tu n'as pas respecté l'exhortation, la recommandation d'Allah. Et il dit: كَيْفَ وَأَنْتَ تَوَدُّ أَنَّهُمْ دُونَكَ. Pire encore, comment se pourrait-ce que le sentiment qui t'anime, ce soit qu'il te soit inférieur? Ça c'est pire encore, que tu souhaites que les gens, les autres, soient inférieurs à toi. Que tes frères en islam soient inférieurs à toi. Ce sentiment-là est à bannir. Il dit: si tu souhaites que les gens soient égaux à toi, alors tu n'as même pas respecté la recommandation et l'exhortation d'Allah SWT. Si tu veux respecter cette recommandation d'Allah SWT, il faut que tu sois prêt à sacrifier, comme l'ont fait les compagnons médinois, pour les autres. Tu te soucies des autres. Tu te prives, toi, pour donner aux autres. إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك فما أديت لله النصيحة كيف وأنت تود أنهم دونك. Et donc ici, il faut casser vraiment ce sentiment qu'on peut trouver chez certains d'entre nous, ce sentiment d'individualisme, comme on l'a dit, d'égocentrisme, voire ce sentiment de supériorité, le fait de se croire au-dessus des autres. Et ça, c'est un péché, hein, l'orgueil, la vanité, le fait de se sentir supérieur aux autres. C'est quelque chose qui est à bannir dans les sentiments du croyant. Au contraire, ce qu'il doit y avoir au fond de lui-même, comme nous avons dit, c'est cet amour d'autrui, cet amour d'aller vers les autres, ce souhait d'aller vers les autres, de partager et de leur donner plus que ce qu'on prévoit pour nous-mêmes. Et en particulier, je vous ai dit, pendant ce mois de Ramadan. Une des versions du hadith, qui est authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith rapporté par Ibn Hibban, il nous dit « وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ » Et même le Bukhari et le Muslim ont une version qui précise « مِنَ الْخَيْرِ » avec cette expression « du bien », c'est-à-dire qu'il veut pour autrui du bien. « حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ » jusqu'à ce qu'il aime pour son frère « مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ce qu'il aime pour lui-même « مِنَ الْخَيْرِ » du bien. Donc ça veut dire ici qu'on rejette tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais dans la dunya, tout ce qui est mauvais pour l'akhira, bien entendu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais ici-bas et tout ce qui est mauvais pour l'au-delà est à rejeter. On ne souhaite pas du mal pour son frère. Donc il faut souhaiter le bien de manière générale. Que ce soit un bien, on a dit, terrestre, d'ici-bas, ou un bien de l'autre monde. Et on doit rechercher le bien pour son frère. Comme on souhaite pour nous un bien matériel, quel qu'il soit, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, que ce soit tous ces biens matériels-là, eh bien on le souhaite pour autrui, parce qu'on sait les utilités qu'on peut en tirer. Eh bien pour ton frère en islam, tu souhaites aussi qu'il puisse bénéficier, qu'il soit sa situation matérielle, elle soit meilleure, et qu'elle s'améliore. Comme tu souhaites également pour l'au-delà, ici-bas, mais avec des objectifs pour l'au-delà, être bien guidé, ben tu souhaites la guider pour ton frère. Tu souhaites qu'il soit bien guidé. Tu souhaites avoir un degré de foi élevé, ben tu souhaites aussi pour lui un degré de foi supérieur. Tu souhaites de la réussite dans ta vie d'ici-bas, dans ta vie professionnelle, ta vie d'étudiant, de lycéen, dans ta vie professionnelle, dans ta vie familiale, et ben tu souhaites aussi la réussite pour ton frère. Tu souhaites la réussite ici-bas, mais tu souhaites également la réussite dans l'au-delà, pour ton frère. Donc tous ces bons sentiments doivent animer le cœur du croyant. À l'opposé, tous les sentiments qui sont mauvais sont à bannir. Tout ce qui est mauvais doit être banni. On ne souhaite pas le mal pour autrui. On ne doit pas rechercher le mal pour autrui. Alors que dire des mauvais actes comme les insultes, la méchanceté, le vol, la médisance, la haine? Tous ces mauvais actes sont à bannir et à rejeter. Et en aucun cas, il faut les souhaiter. Et il faut les commettre vis-à-vis de ses frères, parce que là, ce serait très grave, on enfreindrait de manière très grave ces recommandations d'Allah et de son messager. À titre d'exemple, on a demandé à l'Ahnaf ibn Qays, on lui a dit « Mimman ta'allamta al-hilm » « De qui as-tu appris la douceur ?» Parce qu'ils étaient impressionnés par son comportement, très indulgent, très doux. Et il a dit cette belle parole, il dit de moi-même, min nafsi, c'est de moi-même que j'ai appris cela. Déjà, ceux qui l'ont posé la question ont été un peu surpris. Comment on a dit, mais kayf hadhak, comment c'est possible? Il dit, kuntu idha karihtu shay'an min ghayri. Il dit, lorsque je déteste quelque chose d'autrui, que je vois chez autrui. Idha karihtu shay'an min ghayri, que quelqu'un par exemple me parle mal ou me bouscule, ou enfin, vous pouvez imaginer toutes sortes d'actes. Idha karihtu shay'an min ghayri, lam af'alhu bi ahadin mithla. Il dit, je ne fais pas cette chose-là à autrui. Lam af'al bi ahadin mithla. Je ne fais pas cette chose-là à autrui. Comme j'aime pas qu'on me fasse ce mal, alors je ne le fais pas à autrui. Donc vous voyez que en réalité ce hadith nous pousse aussi à la fois donc à faire du bien, à vouloir du bien pour les autres, mais également à l'opposé de ne pas commettre de mal envers autrui, envers nos frères en islam. Donc on doit avoir un comportement qui est noble et en aucun cas tomber dans la méchanceté, dans la médisance, dans la haine, dans le vol, dans tout ce qu'on a pu, dans les insultes, dans tout ce qu'on a pu évoquer comme mauvais actes qui sont à bannir et à rejeter vis-à-vis d'autrui. Alors voilà un petit peu en substance l'explication qu'on a de ce hadith, et on va s'arrêter sur quelques récits qui nous sont rapportés. En particulier, toujours Anas ibn Malik, celui qui nous rapporte le hadith, il nous dit « J'étais aux côtés du prophète sallam, j'étais assis aux côtés du prophète sallam un jour, et un homme était en train de discuter avec le prophète sallam, Et le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. Il dit: l'homme n'est pas croyant, un vrai croyant, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère en islam ce qu'il aime pour lui-même. Et Anas dit: je suis ensuite sorti de la maison de chez le prophète صلى الله عليه وسلم avec cet homme, et on a été au marché. Et il dit: on a commencé à marchander pour un article. Et Anas il dit: j'avais pu obtenir un prix de, j'ai négocié avec le vendeur pour 30 dirhams. Et l'homme qui l'accompagne dit: non. Il dit: non, cet article-là, je l'ai payé 40 dirhams. Et le vendeur, surpris, lui dit: mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis tout à fait d'accord pour le vendre à 30 dirhams. Il dit: non, non, il prend le temps et puis il réfléchit à nouveau. Il lui dit: non, non, en fait, ce que tu proposes là, il en vaut 50, il vaut 50 dirhams. Pareil, le vendeur surpris lui dit: mais je comprends pas, je dis que je suis d'accord pour le prix sur 30 ou sur 40, quoi que vous voulez, mais pourquoi 50 dirhams? Et cet homme dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: La yu'minu abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il a cité cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: n'est pas un croyant véritable celui qui n'aime pas pour son frère en islam ce qu'il aime pour lui-même. Et il dit: pour moi, cet article-là, je l'estime à 50 dirhams. Et donc, je ne voudrais pas que toi, tu perdes de l'argent avec cela. Et donc, on doit le payer 50 dirhams, parce que c'est ce que ça vaut, et je te veux du bien. Donc, comme je me veux du bien pour moi-même, je te veux du bien, et cet article-là, en réalité, il vaut 50. Comme si il lui disait: si on le paye 30, en réalité, tu es lésé. Et donc, je ne souhaiterais pas, et je n'aimerais pas que tu sois lésé, que tu subisses un tort par le fait que tu nous vendes cet article moins cher. Donc voyez un petit peu comment les compagnons prenaient à la lettre ces enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un autre récit d'un autre compagnon. Il s'agit de Jarir ibn Abdillah al-Bajali. Ce compagnon, hadith, le récit rapporté par Tabarani. Jarir ibn Abdillah al-Bajali avait un servant, qui était une personne qui était à son service, qu'il a chargé d'aller acheter un cheval. Et cette personne, qui est à son service ou son autorité, amène un cheval et lui dit: voilà, j'ai payé ce cheval 300 dirhams. Et Jarir ibn Abdillah al-Bajali, le compagnon, lorsqu'il voit cela, il voit le cheval, il dit: mais c'est pas possible, il faut que je voie le propriétaire. Il fait venir le propriétaire pour discuter du prix avec lui. Et il lui dit: est-ce que tu étais bien d'accord? C'est bien le tarif que tu as fixé? Il dit: oui, tu étais consentant sur ce prix à 300 dirhams? Il dit: oui, tout à fait, pas de souci. Et Jarir ibn Abdillah al-Bajali lui dit: non, ce cheval vaut beaucoup plus que cela. C'est pas 300 dirhams, c'est pas le bon prix. Je t'en propose 100 de plus, 400 dirhams. Le vendeur, le propriétaire du cheval dit: oui, j'accepte 400 dirhams si tu veux. Bon, voilà, j'accepte. Et Jarir continue et augmente. Et il passe à 500 dirhams. Lui dit: non, 500 dirhams, je pense que c'est peut-être le bon prix pour ce cheval. Et il va augmenter comme ça le prix pour ce cheval, cet étalon, jusqu'à arriver à 800 dirhams. Et le propriétaire accepte, bien entendu, et prend les 800 dirhams. Et ensuite, on demandera à Jarir: pourquoi est-ce que tu as agi ainsi? Pourquoi est-ce que tu t'es comporté de cette manière? Il dit: بايعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. Il dit: quand j'ai prêté allégeance au prophète sallam, dans des versions plus longues du hadith, il dit: quand je suis venu prêter allégeance au prophète sallam, il a pris également de moi l'engagement que je serai de bon conseil pour tout musulman. Que je serai de bon conseil pour tout musulman. C'est-à-dire que je donnerai une bonne exhortation, je ne léserai aucun musulman. Même par intérêt personnel, même si moi j'ai un intérêt, j'ai un profit, etc. personnel, je mettrai mon profit personnel, mon intérêt personnel de côté pour pas léser mon frère en islam. Vous voyez le comportement de ce noble compagnon, Jarir ibn Abdillah, qui a retenu la leçon, puisque le prophète a pris de lui l'engagement. Et il a tenu cet engagement. Et il était réputé pour cela. C'est-à-dire que lorsque il devait acquérir un bien, etc., il avait toujours ce souci-là de ne pas léser autrui et de payer la chose le prix qui soit raisonnable. Hein, pas profiter de la faiblesse d'une personne ou quelqu'un qui est dans une situation peut-être économique difficile. Vous voyez comment étaient les compagnons. Un autre exemple, celui du compagnon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit « Inni la amurru ala l'ayati min kitabillah » Il dit, je passe parfois sur un verset dans le Coran et je souhaite que tous les gens sachent ce que je sais de la signification de ce verset. Vous voyez comment il voudrait que tout son savoir, le savoir qu'il a acquis, tous les gens puissent le savoir. Comme lui, il a cette connaissance du commentaire du Coran, cette signification du Coran, il aimerait bien que tous les gens et également la même connaissance que lui. Et c'était également un sentiment qui a été exprimé par l'imam Shafi'i, rahimahullah. En réalité, ce sentiment d'amour pour autrui qu'on a évoqué, il doit toucher tous nos frères également dans l'humanité, tous les enfants d'Adam. Puisque c'est vrai qu'il y a certaines versions du hadith qu'on a évoquées, hein, dans lesquelles c'est indiqué « Akhihil Muslim », son frère en islam. Mais également, il y a certaines versions qui sont plus générales, dans lesquelles, par exemple, le hadith rapporté par Ibn Hibban, il dit « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsi »« Hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsi » jusqu'à ce qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. En réalité, ici, le fait d'aimer pour les gens, ça n'est pas quelque chose d'impossible, ça n'est pas quelque chose qui est à rejeter. Comment notre noble messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à toute l'humanité, comment aurait-il pu guider cette humanité qui était dans l'égarement, dans le désœuvrement, qui était très loin de son Seigneur, très loin dans les comportements les uns vis-à-vis des autres? Comment il aurait pu les guider vers le bien s'il n'avait pas au fond de lui-même cet amour pour autrui, de vouloir du bien pour autrui? Et d'ailleurs, Allah SWT nous dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ». Allah SWT l'a envoyé comme une miséricorde pour autrui, pour les mondes, et en particulier pour autrui, pour l'humanité. Et donc le prophète sallam avait au fond de lui-même ce sentiment-là. Il voulait le bien pour autrui. Et d'ailleurs, il l'a fait. Lorsque on étudie sa biographie, on se rend compte qu'il invoquait pour même les notables de Quraysh à la Mecque, qui le persécutait, etc., lorsque Allah SWT n'avait pas encore dévoilé le sort qui était réservé à ces personnes-là, le prophète sallam invoquait pour eux, alors qu'ils se raillaient de lui, ils se moquaient de lui, mais il leur voulait du bien, son but était là, il était là pour propager, partager cette foi, partager cette guidée, et donc au plus grand nombre. Et c'est pareil, nous aujourd'hui. On doit s'ouvrir aux autres, on doit s'ouvrir à autrui. Qu'ils soient musulmans, bien sûr, on a des liens particuliers avec les musulmans, mais également envers les autres. On doit aller vers les autres, on doit partager cette guidée, cette foi, ce sentiment qui nous anime vis-à-vis d'autrui. Et ça, les gens le ressentent. Le ressentent quand vous avez des sentiments de haine à leur égard ou des sentiments d'amour. Et le prophète sallam était ainsi. Allah nous dit, si tu avais un cœur qui était rude, dur, rustre, etc., mais les gens se seraient enfuis, ils ne t'auraient pas approché, ils n'auraient pas suivi ton message, ils n'auraient même pas écouté ton message. Et nous aujourd'hui, nous avons à faire ce travail sur nous-mêmes, ce travail de nous ouvrir aux autres, d'aimer le bien pour les autres, et de s'activer dans ce domaine-là, parce que malheureusement, nous sommes encore à la traîne là-dessus. Ici en France, en Europe, nous avons ce travail-là, c'est notre mission. Comme le prophète sallam qui l'a fait en Arabie il y a 14 siècles. Vous pensez que c'était simple? Non, c'était très difficile. Ben nous aujourd'hui, nous avons aussi à nous retrousser les manches et à mettre en pratique ce hadith. Le fait d'aimer pour autrui, toute l'humanité en réalité le bien. Ça ne veut pas dire que je vais me sacrifier sur les principes de la foi, etc. Non, du tout. Mais je veux partager cette foi, je veux la porter aux autres, je veux les amener vers le bien. Et si on a ce sentiment-là qui nous anime, croyez-moi qu'on pourra réussir. Pour terminer et conclure, je vais citer cette parole du prophète, rapportée par Muslim. Très très belle parole. qui nous dit فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. Très très belle parole du professeur Sallam. Il nous dit, celui qui aime et qui souhaite être éloigné de l'enfer, du feu de l'enfer, et d'entrer au paradis, alors lorsque la mort vient à lui, qu'il soit croyant et qu'il ait une foi en Allah et au jour dernier, et qu'il amène aux gens, et qu'il amène aux gens ce qu'il aime qu'on lui apporte et qu'on lui amène. Comme toi tu veux qu'on t'amène du bien, tu veux du bien pour toi-même, alors préfère aussi, souhaite aussi du bien pour autrui. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.